Bonjour tout le monde et bienvenue à la tasse de café, le balado de LNH.com. Nicolas Ducharme au micro, je vous parle ce 16 octobre. Et voilà, on a une première semaine complétée au calendrier de la Ligue nationale de hockey. Donc aujourd'hui, à l'émission, on va faire un petit retour sur ce qui s'est passé dans les derniers jours, entre autres chez les Canadiens de Montréal. Mais on va aussi parler de ce qui se passe ailleurs, d'ailleurs, peut-être un peu ce qui se passe du côté d'Edmonton, du Colorado, des Predators de Nashville, pas les débuts auxquels on s'attendait du côté de ces trois équipes-là. Donc, on va parler de ça aujourd'hui à l'émission. On va aussi avoir avec nous Hendrix Lapierre, le joueur de centre des Capitals de Washington, qui va venir nous parler de son début de saison, de comment il vit ça avec l'équipe, puisque, bon, ben, il a obtenu sa place dans le vestiaire dès le début de l'année cette saison. Donc, c'est tout un changement pour le jeune Québécois. Il va venir nous parler de tout ça en deuxième portion d'émission. Avant de commencer, je vous invite, si vous nous écoutez sur le site de LNH.com, si vous voulez nous écouter lorsque vous êtes en déplacement, on est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Faites une recherche, la tasse de café LNH, vous allez nous trouver. Apple, Spotify, Google, TuneIn, Amazon, on est partout. Donc, une recherche, vous allez nous trouver et abonnez-vous. Comme ça, vous ne ratez, vous allez pas rater de balado, tout simplement. Alors, on lance l'émission. J'ai avec moi mon collègue chez ALNH.com, Jean-François Chaumont. Salut, JF, comment tu vas?
Salut, Nick. Ça va très bien.
Ça va bien. Je suis content pour toi. Écoute, je suis content de l'entendre. JF, écoute, nous, ça va bien. Hier, par contre, il y avait beaucoup d'émotions du côté de Columbus avec la cérémonie en hommage avec Johnny Gaudreau, à son frère Mathieu Gaudreau aussi. Il n'y a pas de manière parfaite de vivre un tel moment et de vivre une telle cérémonie, mais quand même, j'ai trouvé que les Blue Jackets ont vraiment bien fait ça. Les Panthers étaient en ville aussi. Il aurait dû avoir Matthew Tkachuk, qui est un bon ami à Gaudreau. Par contre, Tkachuk qui est malade, mais il y avait quelques anciens joueurs. Sam Bennett qui a joué avec Gaudreau du côté de Calgary, lui aussi. Puis on a fait ça vraiment avec classe là, chez les Blue Jackets, les Panthers aussi. Tout le monde avait le numéro 13 dans les deux équipes pour la période d'échauffement. Après ça, il y a eu une belle cérémonie où était présente toute la famille, la grande famille, le père, les conjointes, les enfants de Johnny Gaudreau. Mais ce que j'ai le plus retenu aussi, là, bon, au-delà de la bannière qui était ici en souvenir de l'attaquant, c'est comment on a amorcé le match. Moi, c'est ça que j'ai vraiment apprécié.
Oui, mais un bon départ de la part des Blue Jackets. Puis Johnny Gaudreau, qui dans son vidéo disait que lui était heureux dans un environnement hockey, était heureux avec sa famille, avec ses coéquipiers. Et c'est ce qui le caractérisait le plus. Pour revenir à la cérémonie, honnêtement, c'était très, très poignant, touchant. Les Blue Jackets ont organisé une belle cérémonie. De voir Meredith Gaudreau aussi qui se présente sur la glace avec ses deux enfants. Sean Monahan qui prend le plus jeune dans ses bras, qui a de la misère à retenir ses larmes. Ah ouais. Monahan qui marque un but aussi dans ce match-là, qui pointe immédiatement vers la bannière après avoir marqué. Sam Reinhardt qui a un bon match, deux buts, une passe, si je ne me trompe pas. Quel numéro porte Sam Reinhardt?
Porte le 13, j'ai
le 13. C'était bien. C'était un beau match de hockey. Les 13 secondes aussi au début du match. D'ouvrir la formation à 4 joueurs seulement.
Un espace libre à l'aile gauche.
L'ailier gauche qui est absent. C'est Monahan qui gagne la mise en jeu protocolaire. Il n'y a personne pour saisir la rondelle. On la place à la position où Gaudreau aurait dû être. Puis on écoule 13 secondes. Même Dean Evason, qui n'était pas l'entraîneur-chef des Blue Jackets de Columbus, pleurait derrière le banc. C'était difficile pour les joueurs aussi, des deux équipes.
Ouais, j'avais les allergies très fortes là, à ce moment-là.
Ah, même chose. Je peux te confirmer que mon gros nez a eu besoin de quelques Kleenex. mais c'était bien fait. C'était beau de voir aussi les parents, Guy Gaudreau, qui était sur la patinoire, beau-frère, la sœur également de Johnny et de Matthew Gaudreau. Donc, dans des circonstances très difficiles, on aurait aimé jamais vivre cette cérémonie-là, mais les Blue Jackets ont bien tourné les choses.
Comment est-ce que tu te remets de ça si tu es les Blue Jackets? C'est pas un scénario qui est commun là, de perdre un joueur étoile comme ça, un décès. Il n'y en a pas eu beaucoup dans l'histoire du sport, des situations comme ça. T'sais, si je pense un peu à José Fernandez avec les Marlins de Miami, je remonte à Jerome Brown avec les Eagles de Philadelphie au football.
Pelé Lindbergh, gardien du côté des Flyers, qui était décédé tragiquement, accident d'automobile. Écoute, je pense qu'il n'y a pas de livre, il n'y a pas d'ABC pour surmonter une telle épreuve. Déjà que les Blue Jackets de Columbus ne représentent pas une puissance, mais je crois qu'il va se former une sorte de solidarité aussi. Les joueurs vont vouloir honorer la mémoire de Johnny Gaudreau en offrant du bon hockey. Puis depuis le début de la saison, c'est une équipe qui se bat quand même, qui est dans les matchs. Mais écoute, c'est tellement difficile de revenir de ça. Je me place. Hier, j'essayais de m'imaginer là, dans les patins d'un joueur de la Ligue nationale qui doit y aller d'une bonne performance quelques minutes après une telle cérémonie. Honnêtement, il faut être très fort mentalement. Mais ils l'ont fait, les deux équipes, autant les Panthers que les Blue Jackets.
Ouais, disons là, les deux, trois premières minutes, c'était pas beaucoup de mises en échec. Tout le monde est un peu hésitant sur la rondelle, puis c'est parfaitement compréhensible là, dans une telle situation. Donc, écoute, les Blue Jackets garderont à l'esprit l'exemple qu'était Gaudreau. Je pense que les jeunes joueurs de l'organisation qui auront pas le modèle dans le vestiaire, mais bon, j'ai l'impression qu'avec toutes les histoires qu'on a pu raconter au cours des dernières semaines au sujet de ce que Johnny Gaudreau était, ben ça sera un modèle. D'une autre façon, la façon qu'on n'aurait pas voulu, mais bon, c'est la vie, comme le dit malheureusement le proverbe. JF, on va parler un peu des Canadiens. On passe du coq à l'âne, mais bon, retour sur le match contre Pittsburgh. Défaite, alors qu'on semblait... est-ce que c'est un excès de confiance, cette défaite-là des Canadiens, alors que on avait l'avance, là, puis on s'en tirait bien là, dans ce match-là. Contre un adversaire qui lui aussi a tout approuvé cette année, qui part de loin, qui n'a pas été dans la série éliminatoire.
Non, mais c'est un match en deux temps, en trois temps. C'est quoi? Jacques Brel chantait l'avant à mille temps. Je vais pas chanter du Brel ce matin, là, mais.
S'il te plaît.
Ce n'est jamais une bonne idée pour gagner un match de hockey. Très, très mauvais début de match. Mm-hmm. Premier tir là, à 13 minutes 29 secondes contre Tristan Jarry. Mais le Canadien avait repris le contrôle de ce match-là. Trois buts d'affilée, menait 3-2. Samuel Montembeault a été très sévère envers lui-même en disant qu'il avait un petit peu abandonné ses coéquipiers en se faisant déjouer sur le tir de Lars Eller. Mais honnêtement, je pense pas que Montembeault est le fautif dans ce revers-là.
Oui, bien, son explication, c'est qu'il a peut-être descendu un peu l'épaule un peu trop rapidement à son goût. C'est quelque chose... Je pense qu'il s'est fait dire aussi qu'il devait travailler là, dans les dernières années.
Oui, il n'a pas aimé non plus son déplacement. Après le match, Brendan Gallagher, je lui ai posé la question, comment tu réagis quand tu entends Samuel qui prend une partie du blâme? Puis Gallagher était catégorique pour dire, écoute, non, c'est devant lui que ça clochait. Puis Montembeault offre du bon hockey depuis le début de la saison. Mais Gallagher disait, s'il y a un point positif, c'est bien de le voir aussi combatif puis de le voir un petit peu enragé après une défaite. Ça peut être intéressant, mais il y a d'autres éléments. Bon, on a beaucoup parlé de Lane Hudson qui termine avec un dossier de moins 4. Il faut en prendre, il faut en laisser. Il était sur la glace, sur le but dans le filet désert. Hudson, encore une fois, procuré quantité de chances de marquer. Il aurait pu, Brendan Gallagher, entre autres, a obtenu une superbe passe de Lane Hudson, n'a pas été capable de marquer. Hudson, c'est le même gars qui se faufile entre Crosby et Beauvillier. Il va y avoir des matchs plus difficiles. Oui. C'est normal dans une saison. Faut rester calme. Puis même là, un match difficile, oui et non. Là, il a quand même généré de bonnes chances à l'attaque. Il a encore une fois transporté la rondelle. Mais offensivement aussi, le deuxième trio était complètement éteint. Celui de Kirby Dach avec Joel Armia et Alex Newhook. Puis le premier trio depuis le début de l'année, oui, Caulfield a des buts, mais le premier trio passe beaucoup de temps dans son propre territoire. Le Corsi qui calcule le temps de possession, si on veut, là, est très, très, très désavantageux. Ils sont à près de 30 %. Donc, 70 % du temps, ils doivent se défendre dans leur propre territoire. On parle de Suzuki, Caulfield et Slavkovski. C'est un trio qui devra se regarder dans le miroir et rebondir rapidement.
Corsi, dans le fond, 70 % du temps, c'est l'adversaire qui décoche des tirs contre toi et non pas l'inverse.
Exactement. Puis le Corsi calcule les tirs tentés, donc les tirs qui vont atteindre la cible, qui vont être bloqués ou qui vont rater la cible.
pour les gens qui... Il y a un terme en français, là, on l'a sur notre site web, là, c'est tentative de tir tentée. Corsi, ben, écoute, c'était à l'époque, là, lorsque les statistiques avancées sont arrivées, là, c'était en hommage à Jim Corsi, l'ancien gardien là, qui est devenu entraîneur, mais bon, ça a été francisé, donc tentative de tir. Tu parlais de Lane Hutson, Christopher Le Temps est venu quand même à sa défense. J'ai trouvé ça intéressant de voir Le Temps qui... C'est le fun pour Le Temps qui était généreux comme ça en entrevue puis qui se prononce sur un joueur adverse qui est, somme toute, qui a un parcours un peu similaire à celui que Le Temps avait eu quand il est arrivé dans la LNH.
Ben, Le Temps, après le match, est en entrevue avec François Gagnon, mon collègue Guillaume Lepage, qui participe souvent avec nous au balado. Puis, il expliquait justement qu'à ses premières années dans la Ligue, à 20, 21, 22 ans, Dan Bysma devait parfois le retenir. Le Temps avait trop de mentalité. Go, on fonce en attaque, voulait transporter la rondelle, voulait créer des jeux quand il n'y en avait pas. Puis ce que je trouvais intéressant aussi, il a déjà remarqué, avec un seul match au Centre Bell, dès que Lane Hutson touche la rondelle, t'entends une espèce de murmure dans la foule au Centre Bell. Les gens sont excités, veulent le voir y aller d'une montée à l'emporte-pièce. Puis Le Temps disait, c'est normal, c'est le côté humain. Il veut montrer qu'il est bon, il veut transporter la rondelle, il veut générer de l'attaque. Mais de temps en temps, il va frapper un mur. Puis Chris Le Temps, dans son langage assez direct, disait que lui aussi, à 20 ans, 21 ans, pouvait être idiot parfois. Mais il ne faut pas mal le prendre. Idiot dans le sens...
positif.
Positif et peut-être pas assez conscient de ce qui peut survenir sur une glace.
En fait, c'est con le mot qui est utilisé. Je pense que c'est con de conscient et non pas con d'imbécile.
Oui, exactement. C'était pas mauvais, très élogieux aussi son discours envers Lane Hutson. Puis même la veille du match, là, Sidney Crosby avait parlé d'Hudson, Eric Karlsson avait parlé de lui. Pour un jeune de 20 ans qui a une expérience maintenant de 6 matchs dans la Ligue, si on compte les deux en fin de saison dernière, disons qu'il fait déjà jaser beaucoup, puis il fait déjà partie des plans de match des équipes adverses.
Non, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Il est déjà sur les X et les O, donc tu sais, immédiatement, la pression va s'accumuler parce qu'il est de plus en plus connu, tout ça. En même temps, ça ouvre peut-être la porte à Matheson de connaître du succès parce que c'est lui qui est toujours bien le carrière de cette équipe-là. Donc, il y aura Il va falloir qu'Hutson s'habitue. Je veux pas dire le mot dosage, c'est pas doser ses attaques, c'est de les choisir. Bon, ça se ressemble énormément.
Ben, mais doser, choisir le moment. Ouais. Mais c'est normal, là, contre les Pingouins, le Canadien, au moment où il crée son revirement, les Canadiens perdent 4-3. Donc, Hutson, il veut y aller, il veut aider à obtenir le but égalisateur. Mauvaise passe qui est saisie dans l'enclave, puis c'est Le Temps, justement, qui complète là, une poussée d'Evgeny Malkin. Mais c'était la même chose aussi que Piqué Subban. Mais à la fin d'un match, dans la balance des plus et des moins, il risque d'y avoir plus de plus pour Lane Hutson. Puis aussi, là, en ce moment, on parle d'Hutson, mais il y a d'autres défenseurs qui se cherchent. Martin Saint-Louis fait de la jonglerie avec ses duos de défenseurs. Sépare souvent Matheson et Caden Goulet. On a vu au dernier match beaucoup de présence de Caden Goulet en compagnie de Lane Hutson. Arber Jacky s'est retrouvé avec David Savard. Mike Matheson s'est retrouvé avec Justin Barron. On peut parler d'Hutson, mais jusqu'à présent, Arber Jacky à 5 contre 5, c'est très difficile. Probablement que le Canadien se croise les doigts pour un retour prochain, ce qui devrait arriver de Jaden Struble. Et je ne serais pas étonné de voir Jacky regarder un match où il va manger du popcorn sa passerelle de presse.
Deux hot dogs et des hot dogs du Centre Bell, toujours apprécié à travers la Ligue. Hey, tu parles des prochains matchs, GF. Deux intéressants quand même, parce que là, il y a les Kings de Québec qui s'en viennent ici au Centre Bell. C'est les Kings qui ont fait leur camp d'entraînement. Ils auraient dû tout simplement rester à Québec. Ça aurait été plus simple pour...
Les Kings qui ouvrent la saison sur la route là, pour pratiquement 3 semaines. Avec des réparations du côté de l'amphithéâtre à Los Angeles.
Ah oui, au Staples Center. Pas le Crypto.com Arena.
Crypto.com. Okay, vois-tu? Mais c'est un bon test pour le CH. Ça reste une équipe hypothéquée par l'absence de Drew Doughty, mais tu as quand même Andy Kopitar au centre. Il y a Quinton Byfield comme jeune attaquant, Philippe Dano, Trevor Moore. Le Canadien peut en avoir plein les bottines face à LA. Puis dans les dernières saisons, même s'il y a un changement d'entraîneur, c'est maintenant Jim Miller. Ça a toujours été difficile, les matchs Montréal-Los Angeles.
Et pour terminer la semaine, samedi, ben c'est contre Patrick Roy et les Islanders du côté de j'allais dire Nassau Coliseum, le UBS Arena. T'as connu le Nassau Coliseum avant qu'il rénove, hein, toi? T'as-tu vu le UBS Arena?
J'ai vu les deux. J'aimais beaucoup l'ambiance, le côté vieillot du Nassau Coliseum. Puis point de vue pratique, l'hôtel était à 100 mètres de l'aréna, donc on avait juste à traverser un stationnement. Écoute, ça avait besoin de rénovation, tombait un peu en ruine, mais il y avait quand même un charme à cet édifice-là. Le UBS Arena est flambant neuf. C'est au dernier cri, là, le typique aréna moderne 2022, peut-être, l'année, la première année, 2022-2021, ouais, ça fait peut-être 2-3 ans. Mais un petit peu au milieu de nulle part, donc moins facile d'accès.
Ouais, non, c'est à côté du. C'est à Elmont, là, pour être.
Elmont,
ici,
exact.
As-tu vu les rénovations au Nassau Coliseum?
Non.
Ça a l'air que ça allait améliorer l'odeur, entre autres, mais vraiment, là, un peu trop. On en a fait dans le fond, on en a fait une gigantesque salle de spectacle. C'est vraiment ça. C'est
oui,
il y a peut-être un 15 000 places qui est pas l'idéal pour la Ligue nationale de hockey, ce qui explique le déménagement à Elmont, mais il a été rénové. Il a pas été mis à terre, le Nassau Coliseum. Puis bon. Avec tout le monde qu'il y a dans la région de New York, une salle de spectacle de cette envergure-là, ben, ça coûte moins cher à louer que le Madison Square Garden. C'était un artiste, donc c'est là que c'est rentable. Les Islanders qui ont gagné leur dernière sortie ont battu l'Avalanche. Donc, je pense que la troupe de Patrick. Moi, je les vois en série, l'Avalanche. Pas l'Avalanche, excuse. Je les vois
les Islanders,
en série, les Islanders.
Ouais.
J'ai vraiment hâte de voir ce que Patrick Roy va faire avec cette équipe-là durant une saison complète. Déjà, là, on va avoir un petit, pas un avant-goût, mais un aperçu intéressant là, samedi.
Et la dynamique des gardiens aussi là, avec Ilya Sorokin, Semyon Varlamov. Mais oui, c'est une équipe qui devrait logiquement être dans le portrait pour une participation aux séries.
JF, on a parlé de Samuel Montembeault un peu plus tôt dans l'émission. Puis dans le dernier balado aussi, tu en avais glissé un mot sur la confrontation des quatre nations qui s'en vient en février, qui va, le Canada, les États-Unis, la Suède et la Finlande qui vont s'affronter. Les Jeux olympiques aussi en 2026. Il n'y a pas si longtemps que ça, Samuel Montembeault aurait été sur la carte de bingo de personne pour décrocher un poste avec l'équipe. Mais je regarde ce qui se passe en ce moment dans la Ligue nationale de hockey au niveau des gardiens canadiens. Les États-Unis, là,
ils n'ont pas de ce problème-là.
Ce problème-là. Je pense que leur septième gardien serait premier avec l'équipe Canada.
Buck, Jeremy Swayman, Jake Oettinger.
Thatcher Demko
qui est souvent blessé, mais non, c'est un autre débat du côté américain.
C'est ça. Ouais, eux autres, c'est lequel va être numéro un. Ben, ça va être aussi lequel va être numéro un au Canada, mais disons que les options sont moins intéressantes. Je veux qu'on en parle un peu parce que le dévoilement des formations, ça va être entre le 29 novembre et le 2 décembre. Ça s'en vient quand même assez rapidement. Donc, il reste quoi, 2 semaines, 3 semaines aux gardiens pour se mettre en valeur, pour vendre leur salade un peu. Si on avait commencé la saison, au début de la saison, on aurait dit probablement que Stuart Skinner était probablement le favori. Il vient de remporter la Coupe. Non, excuse-moi, désolé. Il vient de perdre en finale de la Coupe Stanley contre les Panthers, mais somme toute, c'est rendu là. Mais début de saison très difficile pour Stuart Skinner. À un point tel qu'on commence à douter un peu de est-ce qu'il a sa place. Après ça, il y a qui? Je te demande ton top 3, écoute. Toi. Puis est-ce que Montembeault s'inclut là-dedans? Je vais nommer les principaux. Là. J'en ai sorti 6 qui, à mon avis, sont tous dans la course présentement. On a parlé de Skinner. Tristan Jarry est au Centre Bell lundi. Est-ce que Tristan Jarry, avec ce qu'on a vu cette année, on n'est même pas sûr s'il est numéro 1 à Pittsburgh. C'est difficile de le voir à numéro 1 avec l'équipe Canada. Haddon Hill, il n'y a pas beaucoup d'expérience, mais somme toute, c'est peut-être le plus fiable. Jordan Binnington, excellente saison l'année dernière. Samuel Montembeault est un qu'on pense très peu, mais qui fait du très bon travail depuis le début de la saison à Utah, c'est Connor Ingram. JF, tu vois ça comment, ce top 6-là de gardien?
Écoute, j'ai pas mal les mêmes 6 noms. Stuart Skinner a un départ catastrophique à l'image des Oilers, mais ça reste que c'est difficile de rayer son nom. Il a quand même amené Edmonton, les Oilers, à une seule victoire de la conquête de la Coupe Stanley. Il a connu de bons moments, mais il y a tout le temps, on dirait, deux visages avec Stuart Skinner. Le bon visage, le mauvais visage. Samuel Montembeau, je crois, est dans l'équation. Montembeau a été gardien pour le championnat du monde avec l'équipe canadienne en 2023. C'est lui qui a mené à la médaille d'or. D'après moi, pour l'instant, si j'avais à choisir un top 3, je dirais probablement Skinner, Binnington et Montembeau.
Tu laisses Adenil de côté, lui qui a remporté le Coupe cette année?
C'est difficile. C'est un 25 sous. Écoute, Binnington, c'est le gardien avec probablement le plus gros bagage d'expérience.
Il a gagné la Coupe cette année aussi.
C'est peut-être un des gardiens qui gère le moins bien aussi ses émotions aussi quand ça chauffe. Adenil a gagné il y a 2 ans. Adenil est grand, gros devant le filet, quand même athlétique, mais n'a pas une superbe feuille de route. Écoute, j'aimerais pas être Doug Armstrong. C'est vraiment un casse-tête de choisir les trois gardiens, mais Montembeau a ses chances. Ça, il y a pas de doute à mon esprit. Puis il reste environ quoi, 1 mois pour continuer de mousser la candidature, mais ça fait déjà plusieurs saisons qu'on les regarde. Puis c'est toujours difficile aussi d'évaluer un gardien parce que tu es aussi bon que ce que tu as devant toi. Montembeau ne joue pas devant la meilleure brigade de défenseurs, ne joue pas devant le meilleur système défensif non plus. Adenil et Stuart Skinner, techniquement, eux ont la chance de jouer pour une meilleure équipe. On verra la décision de Doug Armstrong, mais à mon humble avis, je crois que Skinner est toujours dans le coup parmi les trois premiers gardiens.
Je commence à me dire que si je suis Doug Armstrong, j'ai le goût d'y aller safe puis d'y aller avec mon propre gardien, Jordan Binnington.
Ben, c'est le gardien qui connaît le mieux. Mais Armstrong n'est pas l'unique homme à y aller de la décision
finale. C'est un bon personnel.
Il y a un gros personnel. Il y a John Cooper aussi qui est l'entraîneur du côté de Tampa. Écoute, il doit déjà y avoir des débats. Il va continuer d'en avoir jusqu'à la fin du mois de novembre. Mais tant que Montembeau joue comme il l'a fait depuis le début de l'année, bien, il augmente ses chances. C'est un gardien qui est dans sa bulle en ce moment. Je vais reprendre les mots simples de Martin Saint-Louis qui déteste parler d'un gardien. Mais il disait, il est gros dans le net. Ça illustre bien la situation. Montembeau couvre beaucoup, beaucoup de terrain en ce moment.
Non, mais ouais, puis c'est de la façon aussi qu'il a amorcé la saison. Tu sais, il n'y a pas de mauvaise. Oui, ça n'a pas super bien été contre les Kings, contre les Pingouins. Mais ça n'a pas été catastrophique non plus. C'est pas des ballons de plage qui sont entrés, puis c'est pas. C'est des ajustements. Non, vraiment, là, ça va être le reste de la formation. Il y a des pièces interchangeables où c'est la même qualité. Là. Mais devant le filet, je ne sais pas ce qu'on va faire. Je ne sais surtout pas ce qu'on va faire en 2026. À vrai dire, ça va peut-être être plus facile en 2026. Peut-être. Parce que ça va être trois gardiens qui vont avoir leur place à perdre.
Oui. Mais je regarde en ce moment, Adenil, Nick, un taux d'efficacité. C'est tôt là, dans la saison. Là. C'est seulement 3 matchs. Mais il y a un taux d'efficacité de 855. Jordan Binnington est à 895, on n'a même pas le seuil de 900. Montembeau est à 942, malgré un départ plus difficile contre les Pingouins. Mais bon, on ne va pas juste prendre cet aspect statistique-là. Il y a bien d'autres choses à considérer. Mais on va avoir d'autres balados d'ici l'annonce de l'équipe. Je sens que c'est un sujet qui va revenir, comme parler de Lane Hudson, comme parler d'Arbor Jacky, comme parler du premier trio du CH. De l'avantage numérique. Il y a des sujets qui ne se démodent pas, Nick.
Il y a aussi des équipes qui ne se démodent pas de parler. Une d'elles, c'est les Oilers d'Edmonton. Difficile début de saison. Bon, Skinner est entre autres responsable de tout ça. Hier, on a signé notre première victoire en faisant ce que les Oilers font habituellement quand ils sont désespérés. Mettre le monstre à deux têtes ensemble sur le même trio, McDavid et Draisaitl. Mais on perdait quand même ce match-là 2-0 avant d'effectuer une remontée quand même importante. Puis c'est Draisaitl qui a mis la touche finale à tout ça avec un but en prolongation. Mais bon, donc 1-4, si je ne me trompe pas, du côté des Oilers. Je donne ça, c'est pas long. 1-3. Ce qui fait qu'on est en dernière place présentement de la section Pacifique. Dans la section centrale, près à l'heure où on se parle, là, tout dépendant les gens à la maison, à quelle heure vous nous écoutez, Predators de Nashville, Avalanche du Colorado, 0-3 pour commencer la saison, dernier dans la section centrale. Quand tu regardes tout ça, JF, est-ce que on peut commencer à se poser des questions, surtout pas appuyer sur le bouton panique, mais il y a certains points de questionnement que je me pose, en particulier chez l'Avalanche à court terme.
Mais l'Avalanche, je trouve que c'est l'équipe qui manque en ce moment le plus de profondeur.
C'est ça.
Les joueurs étoiles sont pas entourés. Makar, c'est correct à la ligne bleue, mais là, tu as Devin Taves qui est blessé. Samuel Girard revient quand même de loin, mais c'est surtout à l'attaque. Là. Nathan McKinnon s'ennuie déjà de Jonathan Drouin, s'ennuie d'Arturi Lehkonen. Gabriel Landeskog n'est pas là. Valérie Nichushkin également. Donc, il y a plusieurs trous du côté de l'Avalanche. Mais tantôt, Nick, tu me parlais des Oilers d'entrée de jeu. Je me suis couché tard hier. J'ai regardé le match jusqu'à la dernière minute contre les Flyers de Philadelphie. Puis, pour moi, le bobo du côté d'Edmonton, c'est pas d'essayer de replacer le monstre à deux têtes ensemble, qu'on les sépare, qu'on les place ensemble. Ça a toujours été ça du côté d'Edmonton, peu importe qui est derrière le banc. Je trouve que c'était à la ligne bleue que le problème est très, très criant du côté des Oilers. Oui, t'as Evan Bouchard, mais après ça, t'as Darnell Nurse, t'as Mathias Ekholm, t'as un bon premier duo avec Bouchard et Ekholm, mais après ça, Brett Kulak. Techniquement, Brett Kulak, gentil garçon, bonne personne. Kulak est un sixième défenseur de la Ligue nationale. Mais les Oilers ensuite, c'est Troy Stetcher, Ty Emberson, Travis Dermott. On parle de septième, huitième défenseur, mais là, tu es obligé d'en insérer deux chaque soir dans ta formation. Avec Darnell Nurse, qui est du jeu très, très, très inconstant depuis quelques années. Défensivement, la perte de Philip Broberg va faire mal à cette équipe-là. Les Blues auront fait mal aux Oilers d'Edmonton en lui donnant une proposition hostile. Puis tantôt, Nick, tu parlais aussi des Prédateurs de Nashville. Je reste patient avec les Prédateurs.
Oui,
on a ajouté beaucoup d'ingrédients. Steven Stamkos, Jonathan Marchessault, Brady Shea. On parle de trois joueurs. Marchessault, Stamkos ont déjà gagné. Shea a beaucoup d'expérience en série, que ce soit en Caroline ou avec les Rangers. Je pense faut rester patient, faut respirer par le nez. Le gâteau va finir par lever du côté des Prédateurs de Nashville. Mais c'est pas le début de saison qu'Andrew Brunette et Barry Trotz espéraient.
Non, c'est certain. Ce qui me fait croire que, bon, si vous êtes un parieur là, à la maison, puis vous vous dites, je vais parier que c'est une de ces trois équipes-là, ce sera pas en séries éliminatoires. Il existe une statistique qui s'appelle le PDO. Tu connais, Jeff?
Oui.
Bon, PDO, c'est la somme du pourcentage de tir et du pourcentage d'arrêt d'une équipe. En gros, si tu as un bon PDO, c'est que tout va bien pour toi, la chance est de ton côté. C'est un peu le facteur chance, c'est ce qui regarde un peu. Normalement, tout roule pour toi, t'es très fort dans cette catégorie-là, tu vas connaître du succès. Ben, présentement, les Oilers, les Predators, l'Avalanche, à 5 contre 5, comme à force, dans toutes les facettes du jeu, on est les trois dernières équipes là-dedans. Donc, il y a une certaine malchance, on peut dire, pour ces trois équipes-là. Je pense que ça va rebondir. Stuart Skinner, écoute, peut faire mieux que ça devant le filet. Chez l'Avalanche, Alexander Georgiev, ça, c'est très difficile au niveau de ses statistiques. Écoute, taux d'arrêt 787. On en a parlé avant la saison qu'on s'attendait à avoir Justus Anunin un peu plus devant le filet.
Ouais.
Ben là, après trois départs, c'est la catastrophe pour Georgiev. Écoute, c'est pas compliqué de regarder les pointages. On s'est fait planter là, du côté de chez l'Avalanche. Donc, il va falloir qu'il y ait probablement un changement là, mais oui, tu te dis, chez l'Avalanche, il manque tellement de profondeur. C'est pas compliqué, il te manque quatre alliés gauches. Drouin, Nichushkin, Lehkonen et Landeskog. Bon, Landeskog, je veux dire, il faut faire un X sur lui. Là. S'il revient un jour, ça va être du beau gravy, puis encore là, ça va peut-être être un scénario à la Carey Price, tu sais, qui était revenu, mais qui n'était pas l'ombre de lui-même, puis finalement, qui a réalisé que ça allait être ses derniers matchs dans la LNH. Mais Lehkonen, Nichushkin, c'est des joueurs aussi qui sont complets.
Puis Lehkonen est un joueur drôlement important pour cette équipe-là, autant 5 contre 5, en avantage numérique, en infériorité numérique. C'est un joueur qui est très intelligent. C'est un joueur aussi qui, même si c'est un ailier, un attaquant, aide les gardiens parce qu'il est bon défensivement. Mais Georgiev et l'Avalanche, c'est 20 buts accordés en 3 matchs. Pas le plus grand des mathématiciens, là, mais quand tu en donnes près de 7 par match au hockey, t'es dans le trouble. Donc, Jared Bednar risque d'être assez impatient avec Georgiev. On va vouloir brasser un petit peu la soupe du côté de l'Avalanche, mais ça reste trois équipes qui ont tellement de talent brut. Quand tu as un McKinnon, tu as un McCarr, tu as un McDavid, tu as un Draisaitl, puis du côté de Nashville, tu as un Roman Yossi, un Yussi Saros, maintenant Stamkos, Ryan O'Reilly. On parle d'équipes qui ont le potentiel, le talent pour rester des équipes top 8 dans l'Association de l'Ouest.
Laquelle des trois va finir le plus haut classement?
Je te lance ça. Là.
Les Oilers, c'est ma prédiction du début de l'année. Je vais garder les Oilers, mais j'aime vraiment pas la ligne bleue des Oilers. À mon avis, ils vont devoir bouger assez rapidement.
Oui, mais ça, c'est comme gens du pays. Je veux dire, on chante ça chaque année. Tu sais, ouais. C'est le 24 joueurs, là, mais dans le cas des Oilers, c'est à chaque début de saison où ça se répète, où on n'est pas certain de la ligne bleue. Ça va encore coûter un choix de première ronde pour aller chercher un défenseur.
C'est la fenêtre où les Oilers doivent gagner. Là. Oui. Stan Bowman le sait, il va le reconnaître rapidement. Il l'avait. C'est pas Stan Bowman, c'était Ken Allen à l'époque. Mais un type de transaction où Mathias Ekholm avait justement coûté un choix de premier tour. Mais il n'y a personne du côté d'Edmonton qui regrette cette transaction-là quelques années plus tard.
Surtout pas. C'est peut-être même le meilleur défenseur de l'équipe. Je sais qu'Ivan Bouchard accumule les points un après l'autre, mais au niveau de la qualité de jeu, je pense que Mathias Ekholm a été... écoute, ça n'a pas coûté cher quand tu regardes ce que Ekholm fait sur la patinoire. Donc, les Oilers, qui, à ton avis... De toute façon, les Oilers, ils l'ont vécu, ce scénario-là, l'année dernière. C'est la même chose. Bon, ça a coûté le poste à Jay Woodcroft. Je pense pas que c'est ce qu'on va faire cette année avec Chris Knobloch, mais même l'année dernière, au niveau du PDO et tout ça, c'était la même chose qui se passait. Là. Le pourcentage de tirs aussi, on ne réussissait tout simplement pas à marquer.
C'était plus une anomalie expliquait le mauvais départ. Point de vue statistique, ça a coûté le poste à Jay Woodcroft. Mais ce que j'aime aussi du côté de l'Alberta, la marmite à Edmonton est déjà bouillante. Puis tu as le voisin en Alberta, les Flames, qui ont un début de saison que personne n'aurait pu prédire. Donc, ça ajoute encore plus à la pression. Il faut se rappeler les années où on avait les Canadiens et les Nordiques du côté du Québec. Quand les Nordiques jouaient bien et que les Canadiens s'enfargeaient, bien, ça chialait un petit peu plus vite. Ça doit ressembler à la même dynamique en Alberta en ce moment.
Ouais, d'ailleurs, en Alberta, Huberdeau, 6 points ses 4 premiers matchs.
Ouais.
Anthony Manta, 4 points en 4 matchs, donc pour les joueurs québécois. Je suis heureux. Honnêtement, je suis heureux pour Huberdeau, je suis heureux pour les Flames.
Tant mieux s'ils peuvent replacer leur carrière sur les rails. Jonathan Huberdeau, c'était quand même phénoménal de passer d'une saison de 120 points à des saisons d'à peine 40-50 points.
Ouais,
c'était toute une débâcle. Je pense pas, comme il l'a déjà dit, Jonathan, qui a oublié son talent du jour au lendemain. S'il peut être mieux entouré, même si c'est paradoxal parce qu'on a libéré des joueurs, on a procédé à des transactions, on croyait que c'était une équipe qui se destinait vers une reconstruction complète.
Je pense que Craig Conroy le croyait lui
aussi. Craig Conroy aussi, mais c'est encore tôt. Ça se peut qu'on change complètement de discours dans 3 semaines, mais pour l'instant, les résultats des Flames, c'est encourageant.
Oui, souvenez-vous, l'année dernière, là, les Coyotes d'Arizona qui étaient dans la course aux séries dans le coin de Noël et qui ont ensuite 12 défaites en 13 matchs environ. Là, donc,
exact.
C'est très, très petit comme échantillon, mais c'est quand même intéressant de regarder tout ça. On passe à la prochaine portion de notre émission avec un invité. Vous le connaissez, il est attaquant pour les Capitals de Washington. Amorce la saison avec les Capitals pour une première fois. Hendrix Lapierre. Salut, Hendrix.
Salut, salut.
Comment tu vas?
Ça va super bien, vous autres. Merci de me recevoir.
Ça fait plaisir. Écoute, Hendrix, tu étais en action hier. Match, une belle victoire pour les Capitals, première de l'année, avec 4-2 contre les Golden Knights de Vegas. Tu amorces la saison à Washington. C'est un grand pas pour ta carrière de justement d'être retenu, de ne pas avoir à retourner dans la Ligue américaine. Comment tu vis ça, là, ce saut important au niveau de ta carrière?
Je suis très content, évidemment. Je savais, avec l'année de l'année passée que j'avais eue, je savais que j'étais capable de jouer dans cette ligue-là. Puis c'était à moi de le prouver rendu au camp. Puis, je suis super content de faire partie de l'équipe au début de l'année. Je sais que on a des attentes assez élevées par rapport à notre groupe cette année. Donc, super content de faire partie de ça. Puis, c'est le fun de justement pouvoir commencer l'année finalement puis savoir que j'ai ma place là puis que je vais être un membre régulier des Capitals.
Es-tu content, Hendrix, aussi de voir que les Caps, depuis tes débuts à Washington, tu n'as pas reçu de cadeaux? tu as eu à tracer ton chemin, tu as eu à le mériter. L'an dernier, tu avais fini la saison à Washington, tu as joué en série, tu étais là pour le premier tour éliminatoire contre les Rangers. Mais tout de suite après, on t'a dit non, tu t'en vas pas en vacances, tu t'en retournes du côté d'Hershey. À quel point ça a peut-être forgé ton caractère et ton esprit de compétition encore plus?
Ah, tellement. J'ai beaucoup d'exemples, mais j'en parlais justement. Mettons ma première année pro. J'avais quelques amis, mettons, quelques gars que je connaissais, qu'eux autres en partant, première ligne, tout ça dans la ligne américaine. Puis moi, je me rappelle, Harrison avait une bonne équipe, puis je commençais, puis j'avais quasiment pas de power play. Je jouais sur une troisième ligne, puis j'étais comme, maudit, c'est tough. Puis au début, tu te demandes un peu qu'est-ce qui se passe, mais éventuellement, tu comprends qu'il faut que tu gagnes tes minutes. Puis je pense que c'est tellement, tellement bénéfique pour moi dans ma carrière de justement avoir eu à travailler pour ce que j'ai, puis de pas tout m'être fait donner en partant, puis de peut-être être un peu, justement là, être satisfait après ça. Donc, je pense que ça m'aide. Puis, tu sais, justement, mettons, première année, tu essaies de faire ta place dans la ligne américaine. La deuxième année, tu as un peu plus ta place dans la ligne américaine. Puis là, tu arrives dans la ligne nationale, tu essaies de faire ta place dans la ligne nationale. Là, tu réussis à faire ta place dans la ligne nationale. Mais là, une fois que tu l'as fait, il faut que tu continues de, tu sais, parce que le monde, il pousse tout le temps. Fait que, tu sais, même en ce moment, là, au début de l'année, j'essaie de justement reprouver, mettons, à l'organisation puis au coaching staff qui peut me faire confiance. Puis j'essaie de faire ça chaque jour. Donc, ouais, je pense que ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Des fois, tu le réalises peut-être pas, mais avec du recul, là, je pense que ça a été très bénéfique pour moi de passer par tous les rôles. Puis maintenant, je suis à l'aise de jouer dans n'importe quelle situation dans la Ligue nationale.
Ouais, justement, parlons-en de ton rôle. Il y a eu beaucoup d'ajouts chez les Capitals cet été, ce qui fait que ton entraîneur Spencer Carberry tente de trouver les combinaisons intéressantes, ce qui peut fonctionner présentement. Présentement, tu es sur le troisième trio. Hier, tu étais avec Jacob Vrana et Andrew Mangiapane. Quel impact tu peux avoir sur un trio comme ça? T'sais, on sait que tu as des capacités offensives, mais là, c'est dans le jeu défensif que c'est les plus grands steps, si je peux dire, sont à prendre pour toi.
Ouais, je pense que je me suis énormément amélioré dans mon jeu défensif depuis quelques années. Je pense que je progresse d'année en année. Puis, comme tu as dit, on a rajouté beaucoup de bons joueurs, donc c'est encore plus difficile pour moi de faire ma place. Et si on compare, mettons, l'alignement qu'on avait l'année passée en série à maintenant, il y a 3-4 joueurs qui se sont rajoutés à l'attaque. Donc, il faut que tu essaies de justement continuer de prouver que tu es capable d'être utilisé dans n'importe quelle situation. Puis, tu sais, mettons, nous autres défensivement, ben on a Nick Dowd qui est un des meilleurs centres de quatrième ligne de la Ligue, possiblement le meilleur selon moi. Lui, beaucoup, beaucoup de responsabilités défensives. Fait que c'est difficile de justement en prendre de ces gars-là, mais t'essaies d'apprendre à chaque jour dans les pratiques. Puis justement, quand tu as une chance là, de prendre une mise au jeu en zone défensive, vous êtes envoyé dans des situations en fin de match, puis ben, t'essaies d'exceller puis de faire les choses correctement. Donc, je dirais que je m'améliore beaucoup dans ces situations-là. C'est sûr que justement, comme j'ai dit, tout est à refaire de l'année passée. Je vais rien me faire donner, puis j'apprécie ça. Fait que j'essaie de continuer à apprendre à chaque jour, avoir une belle attitude, puis justement de faire mon petit bout de chemin. Puis je sais qu'éventuellement, quand tu te portes une réputation de joueur qui est capable de jouer dans n'importe quelle situation, ben là, t'es un peu plus de lousse, puis t'es plus utilisé, puis tout. Donc, ça se fait pas du jour au lendemain. C'est un long processus, mais j'essaie de tout faire à mon pouvoir pour arriver là.
Tu parles de minutes puis d'utilisation, Hendrix. Les deux premiers matchs, c'est un temps de jeu qui est quand même réduit, là, 7-53 contre les Devils, 8-53 contre les Golden Knights. C'est quoi le défi quand tu as moins de présence dans un match, mais que tu veux quand même avoir un impact?
Oui, je pense que c'est juste il y a deux affaires qui me viennent en tête. Premièrement, c'est ça a l'air de rien, mais quand tu ne joues pas pendant un petit moment, après ça, de rembarquer, c'est quand tout le monde, mettons, de l'autre équipe, on joue à des chiffres réguliers ou peu importe, ben là, tu essaies de remettre tes jambes et ton cerveau en exécution. Fait que ça, je pense que c'est une des affaires. Puis l'autre chose que je te dirais, c'est des fois, quand tu joues peut-être un peu moins, ben tu veux tellement prouver que tu es capable de jouer que tu essaies de te compliquer la vie un peu. Mais je pense que quand justement tu gardes ça simple, c'est là que ça va justement ça va le mieux possible. Puis, t'sais, justement, j'ai eu le premier match, j'ai joué 7 minutes, mais j'ai vraiment pas eu une bonne game. Ça n'a pas bien été. Chaque chiffre, on dirait que ça marchait juste pas. Puis, ouais. Je parlais à mon coach après, puis il a dit, je suis pas inquiet, je sais qu'est-ce que tu es capable de faire, mais il dit, quand justement tu as une mauvaise game, essaie pas de compenser en essayant de me prouver justement en faisant des jeux flash. Puis, j'ai pas fait ça, mais de faire des jeux flashy ou peu importe, garde ça simple. Tu vas avoir de la confiance en faisant des petits jeux, puis en passant du temps dans zone offensive. Fait que, ouais, c'est des petites affaires de même que tu apprends dans le pro qui font une différence. Fait que j'essaie de justement suivre ce que ce monde-là me dise. Puis, tu sais, je sais que je suis capable de jouer dans cette ligue-là. C'est plus une question. J'ai fait l'année passée. Puis, l'année passée, j'ai aussi eu à justement à prouver ce que j'étais capable de faire. Mais je m'en fais pas avec ça. Puis, chaque fois que je suis à la glace, je veux justement juste aider l'équipe à gagner. Puis, c'est vraiment le moindre de mes soucis en ce moment. Justement, mon temps d'utilisation, là.
Hendrix, on parlait tantôt, on disait qu'il y a eu beaucoup d'ajouts du côté des Capitals. Un des joueurs qui s'est ajouté, c'est Pierre-Luc Dubois, donc ça va parler un petit peu plus français dans le vestiaire, mais c'était pas une situation facile pour lui avec tout ce qui s'est passé à Los Angeles l'année dernière. Comment ça s'est passé, son arrivée avec l'équipe, l'intégration, on cherche encore les trios. Comment il prend ça, Pierre-Luc, présentement? Es-tu heureux de comment ça se déroule, même si la saison est très courte, là, est très, très peu avancée?
Oui, je pense qu'il est super heureux. En tout cas, moi, je trouve que depuis qu'il est arrivé, vraiment, il a fait un super job, que ce soit au niveau sur glace ou hors glace. Je pense qu'il s'entend bien avec tout le monde. C'est un gars qui est rassembleur, bonne énergie, fait qu'il est super le fun à côtoyer. T'sais, moi, personnellement, avec moi, il a été super gentil depuis le début, que ce soit tu m'inviter à des soupers, me donner des conseils, peu importe. Fait que vraiment, puis pour ce qui est sur la glace, je joue très bien à date. Il y a eu un bon camp, intense. T'sais, hier, mettons, c'était son trio qui était pas mal opposé au trio de Eichel, Stone et Barbashev. Fait que, t'sais, je pense qu'il se fait donner des responsabilités qu'il n'a peut-être pas eu nécessairement dans le passé, mais il répond présent, il fait super bien ça. Puis je peux pas parler pour lui. Je sais pas si. Mais t'sais, moi, je pense qu'il adore ça en ce moment. Il a du plaisir. Tu vois qu'il a le gros sourire d'en face. Donc, puis il joue super bien. Donc, je suis super content pour lui. Puis je sais que c'est juste le début de grandes choses pour lui à Washington.
Henrik, si tu parles de début de grandes choses pour Pierre-Luc à Washington, mais je ne veux pas, tous les athlètes professionnels, vous avez votre fierté, puis tu n'atteins pas un aussi haut niveau sans une fierté, sans un désir, sans une rage de compétitionner. Penses-tu que pour Pierre-Luc, c'est essentiel de vouloir prouver que la saison dernière, c'est une erreur de parcours du côté de Los Angeles, puis qu'il appartient toujours à l'élite des joueurs de la Ligue nationale de hockey?
Ben oui, c'est sûr, c'est un gars qui est très, très, très compétitif. On a eu des bonnes discussions par rapport justement au hockey et tout. Puis, je pense qu'il a la tête à la bonne place. Il sait ce qu'il a fait de pas bien, de bien l'année passée. Puis, il veut justement prouver qu'il, comme tu as dit, qu'il fait partie de la Ligue nationale. Pour moi, il n'y a aucun doute. Je pense que pour le reste de notre équipe non plus, on sait ce qu'il est capable de faire. On le voit de jour en jour, de plus en plus, qu'il prend de la confiance et tout. Mais, c'est plus à lui de répondre ces choses-là, mais moi je pense qu'il est justement, je pense qu'il a faim de justement de succès, de prouver au monde que justement qu'il mérite sa place parmi les joueurs de la Ligue nationale de hockey.
Hendrix, c'est plutôt rare pour un joueur de la Ligue nationale de se retrouver dans un vestiaire où il y a un autre joueur qui vise à un record de Wayne Gretzky. À vrai dire, il y a peut-être un seul vestiaire dans la Ligue en ce moment qui c'est ça, puis c'est le vôtre avec Alex Ovechkin. Le record de but, qu'on le veuille ou non, ça va être un. Ça va être comme un nuage un peu au-dessus de votre saison, même les deux prochaines saisons dans le cas d'Alex. Mais toi, en tant que joueur, quand tu vois un Alex Ovechkin aller, sa préparation, comment il est dans le vestiaire, sur la glace, qu'est-ce que tu apprends de ce joueur-là? Puis c'est comment se retrouver avec une légende de la sorte?
Ouais, c'est vraiment exceptionnel, honnêtement. C'est pour moi, c'est un. Maintenant, je le vois comme plus un ami puis tout, mais c'était vraiment un rêve de petit cul. Je pense que ce que je peux apprendre de lui, c'est juste vraiment, tu sais, après, mettons, je pense que c'est sa 20e saison, si je me trompe pas, puis l'énergie qu'il apporte à chaque jour, le gros sourire qu'il a dans la face, tu vois qu'il aime ça. Tu vois qu'il joue pas parce qu'il veut aller chercher le record ou peu importe. C'est vraiment parce qu'il aime encore ça. Puis, c'est ça, je pense que c'est un super bon coéquipier, bon capitaine. Il a le gros sourire dans la face. Fait pour moi, voir un gars de même que. T'sais, des fois, mettons, tu as des journées un peu plus tough, tu te sens un peu plus fatigué, tu viens de jouer peut-être deux games en deux soirs, tu arrives à l'aréna, OK, il faut que je pratique aujourd'hui. Mais d'avoir des gars de même qui, après 20 ans, sont encore tout aussi joyeux, ben, c'est justement, ça fait que moi, je suis comme, OK, j'aime ça avoir un sourire d'en face, tout, mais OK, je vais me mettre un sourire d'en face, puis je vais avoir du fun aujourd'hui, ça va durer 30 minutes, puis après ça, j'irai peut-être prendre une sieste, peu importe. Fait qu'en tout cas, ces gars-là sont super, sont vraiment, puis pas juste lui, c'est nos autres vétérans aussi, fait que j'apprends beaucoup, puis c'est super le fun de le voir aller.
Tu me disais l'an passé, Hendrix, que pendant la pandémie, tu avais du temps à perdre, tu avais commencé des cours de russe. Comment va ton russe avec Ovechkin ou là, Miroslavchenko?
Ça va pas super.
Ça va pas trop bien.
Honnêtement, ça, pas vous mentir, ça va pas super. C'est un projet que j'ai mis de côté un peu lors des dernières années. Je pense que je vais y retourner éventuellement. Mais ouais, c'était plus pendant la COVID. Puis j'avais l'impression que je m'améliorais tellement pas malgré mes nombreuses heures passées sur Babel. Fait que. mais oui, éventuellement, je pense. Je pense que je veux mettre mon cerveau au défi et essayer d'apprendre ce langage-là ou juste les bases du langage. Il va sûrement être rendu trop tard. Je ne sais pas, il reste combien de temps à Ovi, oui. Mais au pire, ce sera avec Miroshnichenko, puis Protas, puis les autres Russes qui sont là, Alexeyev.
Comment tu le vois à l'entraînement? Tu sais, nous autres, pendant un match, on voit son tir. Il est souvent à la même position en avantage numérique. On dirait qu'il l'est depuis 102 ans, mais il continue quand même à surprendre les gardiens. Si tu pouvais me décrire un tir d'Ovechkin, ça ressemble à quoi?
Ben, j'en ai parlé avec les goalers, justement, puis je disais, qu'est-ce qui fait que... Parce que son tir, il est très, très vif, il est dur, c'est un lancer qui est lourd, mais pourquoi qu'un autre joueur n'est pas capable de te battre sans écran ou peu importe? Puis ce qu'ils disaient, les goalers, c'est que de la façon que Ovi, il lève son bâton, puis comme il fait comme un peu ça tout croche, fait que tu sais pas trop, ça a l'air que tu sais pas trop où ce qui s'enligne. Les autres joueurs, des fois, ils ont un élan plus droit, puis t'es comme, OK, son bâton s'en va vers, on va dire, ma mythe. Ben, je sais qu'elle s'en va, ce bord-là. Mais de la manière que les goalers l'expliquaient, c'est que justement, lui, t'as aucune idée, elle s'en va où. Fait qu'elle peut partir en haut, elle peut partir en bas, elle peut partir à gauche, à droite, puis c'est un tir qui est pesant. Fait que de le voir dans la pratique, c'est le fun aussi, parce que c'est vrai que son élan est un peu unorthodoxe, puis tellement puissant. Tu sais, des fois, on pratique l'avantage numérique, puis. Évidemment, nos défenseurs ne se mettent pas devant le shot. Donc, souvent, c'est juste lui contre le goaler. Puis, maudit, il réussit tout le temps à en scorer un ou deux. Fait que c'est impressionnant. C'est le fun à voir aller. Mais ouais, c'était un peu le côté plus technique de la chose. Mais c'est très impressionnant.
Hendrix, en terminant, je veux parler un peu. On revenait sur l'année dernière parce que, comme Jeff disait, tu étais terminé la saison avec Hershey. Les Bears d'Hershey qui sont. Quoi, les Yankees de New York de la Ligue américaine, là, je pense qu'en matière de qualité de programme, c'est depuis toujours, là, ça a toujours été une des grandes organisations de la Ligue américaine. Tu arrives en séries éliminatoires, vous aviez gagné la Coupe l'année dernière, vous avez encore gagné la Coupe, tu as défoncé tout le monde en séries éliminatoires, tu as gagné le titre de joueur le plus utile. T'sais, au niveau de la confiance, faut que ça t'aille. Est-ce que ça t'a lancé pour ton été et pour tout ce qui s'en vient cette année?
Oui, je pense que oui. Parce que justement, j'avais eu une super bonne fin de saison dans la Ligue nationale. J'étais content de ce que j'avais fait. Puis je me doutais que j'allais me faire retourner en américaine. Mais tu sais jamais comment tu vas réagir. Je jouais au Madison Square Garden. Puis deux jours plus tard, j'étais rendu à Lehigh Valley à jouer en série. Puis tu sais pas trop justement. Comment tu vas réagir face à ces situations-là. Tu passes de jouer dans un environnement qui est 20 000 personnes. C'est comme le pic du pic. Là. Puis en tout cas, je ne savais pas trop comment j'allais réagir, mais je pense que je suis content. T'sais, des matchs, ça a moins bien été, c'est sûr, mais en général, je pense que j'ai vraiment bien fait ça. J'ai utilisé dans un rôle qui était le fun. Avec mes coéquipiers, c'était incroyable, la gang à Hershey. Fait que je pense d'en gagner une à ma première année, ça m'a comme donné encore plus faim d'en gagner une autre. Puis, comme j'ai dit, on avait un super beau groupe. Chaque game, il y avait quelqu'un de différent qui trouvait la façon de marquer un gros but. Donc, vraiment, je pense que ça a été super bénéfique pour moi. Puis, très, très reconnaissant. T'sais, j'espère que c'était ma dernière fois à Hershey. Ouais. Mais je suis super reconnaissant les deux années que j'ai eues là. J'ai vraiment trippé. Puis, c'est ça.
Hendrix, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui sur la tasse de café.
Ça fait plaisir. Merci à vous de m'avoir reçu.
On te souhaite bonne chance pour la suite de la saison. On va suivre ça du coin de l'œil.
Un gros
super,
merci, Hendrix.
Merci. Ça fait plaisir. Bonne fin de journée.
JF, merci à toi aussi d'avoir participé au balado aujourd'hui.
Toujours un plaisir.
Oui, merci à Hendrix Lapierre qui était là aussi. Chers auditeurs, je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux pour être certain de ne jamais rien manquer de ce qui se passe dans la LNH. Donc, Facebook, c'est LNH. Pour les trois autres, le Threads, Instagram et X, LNH, barre de soulignement, FR. Et suivez-nous sur votre plateforme de diffusion pour ne jamais rater un balado. Le prochain balado devrait être la semaine prochaine, mercredi, là, comme on fait habituellement. Un gros merci encore, JF. Je suis Nicolas Duchamp. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute et on se reparle très bientôt.